Nous sommes de retour. Vous êtes dans le retour en force au 103.5 Cool FM et on va se parler économie un petit peu, tout particulièrement d'économie de finances publiques un peu. Et on a la chance d'avoir avec nous en ligne le député de Robert Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie, M. Carlos Letao. Bonjour, M. Letao.
Oui, bonjour. Comment allez-vous?
Ça va très bien, vous-même?
Très bien, merci.
Super. Bon, on va se parler un peu, d'économie, les finances du Québec. Là, ça, évidemment, il y a les finances du Canada, mais on va se parler aussi de l'économie du Québec. Ça l'a chamboulé beaucoup avec l'histoire de COVID-19. On avait des surplus budgétaires quand vous avez laissé le gouvernement. On se ramasse dans une situation qui s'en vient quand même sérieuse et il faut relever la pente. Tout d'abord, quelle est votre opinion sur l'actuelle crise de la COVID-19 par rapport à l'économie globale?
Écoutez, ce que la pandémie a fait depuis le résultat de cela, depuis le mois de mars, même un peu avant ça, ça a commencé ailleurs, en Chine, etc. On voit que l'économie mondiale est plongée dans sa plus grave récession des dernières 50-60 ans. Donc économiquement, nous, collectivement, la planète, on fait face à une situation économique qui est extrêmement, extrêmement préoccupante. Dans les pays de l'OCDE, donc les pays développés, Amérique du Nord, Europe, Japon, c'est vraiment une récession particulièrement sévère.
Est-ce que vous êtes content des mesures qui ont été mises en place au niveau du gouvernement du Québec pour aider les entreprises, les familles dès le début de la crise?
Je dois vous dire que ma réaction est mixte. Je pense que le gouvernement a réagi, évidemment, a mis en place rapidement des programmes. Et donc, quand on agit rapidement, les programmes, il faut toujours les raffiner par la suite, ce qui a été fait aussi. Donc, pour cela, je pense que le gouvernement a réagi vite. Malheureusement, à mon avis, on est resté, au gouvernement du Québec, on est resté, en termes d'aide aux entreprises, surtout sur des prêts. Donc, à travers Investissement Québec, à travers les banques, on allonge des prêts aux PME et aux plus grandes entreprises, ce qui peut se justifier d'une certaine façon, mais quand on parle des plus petites, des PME, des prêts, c'est pas nécessairement de ce dont elles ont besoin.
Est-ce que vous craignez que certaines entreprises, voire même plusieurs entreprises, s'ils n'ont pas de l'aide du gouvernement dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, soient en difficulté et n'en viennent carrément qu'à fermer?
Oui, et je pense que là où on est maintenant, là, donc à la fin septembre, début d'une deuxième vague, là, je pense qu'on rentre vraiment dans une situation qui est particulièrement grave et dangereuse. Donc, au début, la première vague, c'était l'urgence, c'était donc la mise en place de beaucoup de programmes temporaires, de prêts, etc. Et puis avec le printemps, avec l'été, avec un certain déconfinement, je pense qu'on a réussi à passer à travers. Pas idéal, mais les choses ont avancé. Mais là maintenant, à l'aube d'une deuxième vague qui risque de durer longtemps et la fin de l'été. Alors là, tout ce que moi j'appelle l'économie de proximité, des commerces, des restaurants, des bars, des petites PME qui dépendent du contact personnel, ces petites entreprises-là font face à des défis incroyables. Et donc, à mon avis, il faut les garder en vie jusqu'au printemps prochain. Donc, 6 mois au moins, et 6 mois, 9 mois même, parce que sinon, un grand nombre d'entre elles vont carrément fermer.
Vous avez vous-même été ministre de l'économie. Là, si j'imagine, vous êtes humain comme tout le monde. On s'imagine dans les souliers de la personne qui occupe le poste à ce moment-là. L'été qui vient de se passer, là, l'espèce d'entre-deux vagues, l'accalmie qu'on a pu sentir. Comment, sur le plan économique, auriez-vous préparé l'arrivée d'une deuxième vague éventuelle pour peut-être être capable de mieux épauler les entreprises, entre autres, mais les citoyens même aussi?
C'est ça. Moi, je pense que, donc, au début, là, si on remonte au mois de mars, je pense que le gouvernement du Québec a quand même pris les bonnes décisions en termes économiques, c'est-à-dire qu'ils ont laissé... laisser, c'est un terme peut-être pas approprié, mais en tout cas, ils ont laissé le gouvernement fédéral prendre toute la place en termes de programmes d'aide d'urgence Et donc, très bien, on laisse les fédéraux dépenser de ces sommes-là. Et bon, mais là où je pense, à mon avis, l'erreur a été faite, c'est qu'on aurait dû, au gouvernement du Québec, dès les mois de juin, mai-juin, on aurait dû commencer à planifier qu'est-ce qui va se passer.
Est-ce qu'on aurait pu, corrigez-moi si je me trompe, j'ai pas été ministre de l'économie, mais est-ce que le provincial aurait pu, d'une certaine manière, dire non, la PCU va pas rentrer au Québec, ça empêche des gens de retourner au travail, nous autres on va appliquer un autre programme, est-ce que c'est quelque chose qui aurait été faisable au niveau des compétences?
Au niveau des compétences, d'une certaine façon, oui, ça aurait pu être fait, mais deux choses, ça aurait été d'abord extrêmement complexe, de demander le retrait d'un programme fédéral et parce que là on était en pleine urgence, okay. Il fallait agir vite, donc ça aurait été même si ça avait été possible théoriquement, en pratique ça aurait été extrêmement difficile. Puis deuxièmement, ça aurait coûté extrêmement cher, pas sûr que le gouvernement du Québec à ce moment-là on aurait mis toutes nos munitions dans un tel programme. Donc, je pense que c'était mieux de laisser le programme fédéral se déployer. Mais ce qu'on aurait dû faire à ce moment-là, c'était de penser qu'est-ce qu'on fait après.
Parce qu'il faut il faut en garder des munitions, puisque la deuxième vague qui se dessine présentement... le gouvernement Legault ne semble pas déposer, du moins dans les prochaines semaines, un plan de relance économique. Il semble miser beaucoup sur le projet de loi 66, qui est l'ancien projet de loi 61. Selon vous, aller de l'avant avec des projets d'infrastructure, les 181, est-ce que c'est ça qui va relancer notre économie au Québec ou du moins la soutenir dans les prochains mois?
À mon avis, croyez-moi quand je vous dis que je suis pas intéressé à faire de la politique, de la petite politique, mais pour répondre à votre question, la réponse est non. Et c'est là pour deux raisons. D'abord, une véritable reprise économique, et on en a besoin là de penser à des moyens, à des programmes, à des interventions pour soutenir l'économie dans les 6-9 prochains mois. Une véritable reprise, politique de reprise, ne peut pas et ne doit pas se limiter aux infrastructures. Aussi importante soit-elle, elles sont importantes. Les infrastructures, on a besoin de moderniser, de construire et tout ça. Mais une relance ne peut pas se limiter à ça. Et puis deuxièmement, et c'est là où je suis en désaccord profond avec le gouvernement, c'est que on nous dit qu'il faut aller vite, il faut que la construction se remette en marche. Excusez-moi là, mais la construction fonctionne à plein régime. Donc même si on voulait demain matin accélérer avec une baguette magique, on éliminait toutes les règles et on disait on construit tout, on peut pas, physiquement on peut pas, on n'a pas la capacité. L'industrie est l'emploi en construction est à nouveau pratiquement au plein emploi. Donc, cela va provoquer, si on accélère les projets d'infrastructure maintenant, dans un régime pratiquement de plein emploi en construction, il y aura une hausse des prix, une hausse des coûts, c'est presque inévitable.
Et on voit déjà que les coûts de la construction, du moins résidentielle, avec les matériaux, ont augmenté beaucoup dans les derniers mois dû à la pandémie. Donc, il faut prévoir encore plus d'argent pour les projets actuels, si je comprends bien.
C'est ça. Moi, je pense que si on décide d'accélérer maintenant les projets d'infrastructure, je vois pas comment on va tout simplement dépenser plus pour faire les mêmes choses, parce que ça va nous coûter plus cher. Moi, je mettrais mes, comme on a dit au début de l'entrevue, là, puisque nos munitions sont quand même limitées, moi, je mettrais mes ressources, mes munitions dans d'autres domaines, notamment dans le soutien aux PME.
Concernant l'endettement, juste avant que que la pandémie de COVID-19 s'installe dans nos vies, vous aviez déjà mentionné que vous étiez inquiet de l'endettement des ménages québécois et canadiens qui se situait aux alentours de 155%. Mm-hmm. On doute fort que, les dernières données sont pas sorties, mais on doute fort que les Canadiens et Québécois se sont endettés encore un peu plus. Comment vous voyez ça dans les prochaines semaines? Surtout que d'ici une semaine, en fait, le 30 septembre, on doit rembourser les montants d'impôts qui ont été reportés pour l'année 2019. Moi, je vois ça personnellement comme quelque chose de très gros. Comment vous voyez ça pour que les familles survivent à ça?
Vous avez tout à fait raison. C'est préoccupant. Encore une fois, deux éléments. D'abord, les ratios d'endettement au Québec et au Canada ont probablement diminué. Donc, la situation s'est améliorée. Alors, on est tous très contents. Bravo. Sauf que, cette diminution est en grande partie le résultat, ironiquement, d'une augmentation de l'épargne. Et cette augmentation de l'épargne provient essentiellement de deux moyens, de secteurs. Le report des impôts, comme vous avez dit, mais éventuellement, il faudra les payer. Et puis, surtout, et c'est là qui est vraiment important, le report des paiements hypothécaires. Donc, beaucoup de ménages, depuis l'été, depuis le printemps, depuis l'été, se sont engagés, c'était probablement la chose à faire, à reporter leurs paiements hypothécaires, les institutions financières les ont aidés, très bien. Mais là, ces paiements-là, maintenant, à partir d'octobre, novembre, vont devoir recommencer. Et là, je pense que c'est là que, financièrement, beaucoup de ménages vont subir un choc. Un choc parce qu'ils vont devoir payer les impôts, ils vont devoir payer les hypothèques et les cartes de crédit qui ont été remises à plus tard. Et pour un grand nombre d'entre eux aussi, il y aura moins de PCU et un petit peu moins d'aide gouvernementale, except avec le discours du trône du gouvernement fédéral. Je ne suis pas sûr qu'ils vont le diminuer rapidement, mais en tout cas, pour les paiements hypothécaires et pour les reports d'impôts, il y a maintenant un reality check qui va arriver rapidement.
Est-ce que, dernière question, le ministre Girard des Finances nous a dit qu'il pensait ou prévoyait revenir à l'équilibre budgétaire dans les cinq ans. Est-ce que c'est réalisable de un et de deux? Est-ce que c'est une priorité de revenir rapidement à l'équilibre budgétaire au Québec?
Ça, c'est une bonne question. On pourrait en discuter longuement et ça me ferait plaisir de le faire dans d'autres réunions qu'on pourrait avoir, d'autres conversations. Je vous dirais que le ministre est un petit peu a parlé un petit peu trop vite. En théorie, je pense que oui, c'est important de revenir à l'équilibre budgétaire. Cependant, nous sommes encore dans une situation d'urgence. Donc, je pense pas que c'était approprié de le dire tout de suite, là, maintenant, qu'on va revenir à l'équilibre dans 5 ans, parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quelle va être la taille du déficit, parce qu'il y aura un déficit en 2021. On ne sait pas à quel rythme l'économie va vraiment reprendre. Il semblerait que le choc de la récession était peut-être moins profond que ce qu'on pensait au mois d'avril-mai, mais la reprise va être beaucoup plus lente que ce qu'on pensait. Donc, en 2021, le gouvernement va encore avoir des déficits importants. Alors, un peu trop tôt, à mon avis, pour commencer d'ores et déjà à parler de retour à l'équilibre.
C'est très bien. Merci beaucoup, M. Letao. On vous souhaite un beau week-end.
Merci à vous et soyez prudents, tout le monde, soyons prudents pour éviter la deuxième vague.
Merci, c'était M. Carlos Letao, député libéral de Robert Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle.